sur la planète. Du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Et bonjour, bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Radio Lomax en direct sur la web radio du 106, radio106.com en différé sur Principe Actif Fibre 102.4 et sur HDR 99.1, la radio de la métropole rouennaise. Plusieurs émissions un peu particulières durant ce week-end de reprise, puisque se déroule au 106 la salle de concert rouennaise durant 2 jours. Un festival autour des arts numériques et s'ouvre une expo intitulée Labyrinthe. Deux événements de début d'année organisés par l'association Pixel, qui fera son émission d'ailleurs tout à l'heure entre 19h et 20h. Et puis vous pourrez retrouver le podcast normand L'Entrepode demain à partir de 16h. Ils sont là d'ailleurs. Bonsoir, bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour
Nico de l'Entrepode, Sylvain qui est là également pour l'association Pixel et Géraldine pour l'association Pixel également. Jérémy aux commandes de la réalisation technique de cette émission. Bonsoir Monsieur Jérémy qui est de la radio HDR sur la métropole rouennaise, et Emmanuel Hautemer Sagawa aux images que vous retrouverez sur le site du 106, ces images, et sur nos différents tuyaux de réseaux numériques sociaux.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Et on commence avec Pixel, Géraldine Lemieux, Sylvain Villeray qui sont là avec nous. On accueille les Méninges qui ont pensé le rendez-vous de ce week-end, ce festival consacré de façon très large aux arts numériques. Le setup festival entre jam, ateliers, conférences, le tout agrémenté d'une expo jouable en partie intitulée Labyrinthe, à voir au 106 jusqu'au 22 février. L'association Pixel à Sokiov dans l'image qui bouge et le numérisé au sens large, on va dire. C'est la deuxième fois que vous prenez vos quartiers au 106. La dernière fois, c'était pour une expo Pixel Rhapsody autour de la musique et du jeu vidéo. Cette fois-ci, on enfonce le clou, on va un peu plus loin avec ces 2 jours de festival. Bon, de 2020, il était temps quand même que ça vienne, parce que je dis ça parce qu'ailleurs, dans d'autres métropoles de la dimension de celle de Rouen, ces métropoles ont tous déjà ce genre d'événement depuis quelque temps déjà. Comment ça se fait que ça a mis du temps ici à s'installer, ce regard-là, en tout cas sur cette culture-là?
Bah, je sais pas, effectivement, il y en a plusieurs. Nous, on est amené à travailler un petit peu à l'extérieur, sur d'autres métropoles, mais juste à côté, hein, à Dieppe, Le Havre, Caen, enfin, Évreux, il y en a un peu partout. C'est vrai que sur Rouen, il n'y en a pas. Ça fait un moment, donc c'est pour ça que nous, ça nous manquait un petit peu aussi. On disait que ça serait bien. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est une première édition et qu'on a réussi à réunir pas mal d'acteurs. C'est parce que on n'était pas les seuls à faire ce constat-là. Il y en a plein qui disaient, bah ouais, il y a pas vraiment un festival ouvert grand public où ça va être sympa, ça va pas être que entre professionnels. Il y a aussi un peu cette image-là. C'est flou, le numérique, hein. On a du mal à définir ce que c'est. Et quand on entend numérique, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est, parce que c'est pas simple en fait, le numérique. En fait, c'est juste un. Enfin, moi, je considère que c'est juste un vecteur, hein, c'est juste un langage particulier. Mais nous, ce qu'on a voulu présenter, c'est avant tout de la culture, de la création, c'est un festival culturel qu'on présente avant tout. Et effectivement, on s'appuie sur un numérique parce qu'il est partout, parce qu'il est facilitateur aussi, des fois. Pas toujours, mais après, pourquoi pas sur Rouen? Il y a aussi une culture qui manque, je pense.
Il va falloir construire ça, en fait.
Je pense qu'il faut le construire, parce qu'en fait, on manque singulièrement de développeurs, par exemple, de gens qui créent des choses autour du numérique sur Rouen. Et du coup, les gens sont aussi beaucoup amenés à sortir de Rouen. Au final, il y en a plus à Rouen, enfin, au Havre. Les Rouennais, ils vont au Havre, ils vont à Paris, ils vont à Caen. Ils quitteront, en fait, au final. Donc, on se retrouve avec plus grand monde. Donc, je pense que c'est l'objectif premier du festival. Je parle beaucoup, je te laisse la parole après, Jeanne. C'est ça. C'est déjà de créer une petite émulation, de dire, bah, attendez, on n'est pas tout seul, en fait. On est plusieurs, on peut peut-être faire quelque chose ici.
Pourtant, il y a des écoles, il y a des startups, il y a
des... elles sont toutes naissantes, non? Ouais, elles sont toutes naissantes. Et puis, les écoles, elles sont autour du numérique. C'est là aussi, on disait, c'est flou. C'est aussi beaucoup sur des... C'est pour faire des professionnels de la boîte de production, pas forcément sur les arts. C'est...
Et du coup, vous êtes appuyé sur l'existant ailleurs, justement, de ce genre de rendez-vous. Alors, on a bien compris que l'interactivité, c'était un petit peu le nœud du truc aussi, j'ai l'impression, moi. C'est effectivement un festival culturel, mais c'est un festival dont on s'empare, en fait, de la matière, quoi. Que les visiteurs doivent s'emparer aussi de la matière, quoi.
Oui, mais en fait, on s'est beaucoup basé sur justement ce qu'on fait au quotidien à Pixel, notamment sur des ateliers ou des projets à l'année. C'est qu'on veut que les gens, justement, oui, s'emparent de cet outil numérique pour pouvoir pour montrer qu'eux aussi peuvent créer via ces outils qu'on utilise au quotidien et où on n'a pas forcément l'usage artistique ou culturel, du coup. Et donc, nous, on essaye de montrer des techniques pour faire ce genre de choses chez nous, que ça reste accessible. Bon, tout le monde n'est pas développeur, mais tout le monde peut... développer certaines capacités en tout cas à comprendre le code, c'est pas forcément un truc hyper opaque en fait. On essaie d'expliquer justement et donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de mettre en réseau les gens parce qu'on est beaucoup sur la métropole à faire du numérique, enfin à travailler autour du numérique et on fait pas du tout les mêmes choses. Donc c'est pour ça que c'est très large et que c'est important de se mettre en réseau et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a beaucoup de partenaires au festival.
Ouais, ce qui est important c'est de créer le microcosme, on va dire quoi.
Ouais.
On va dire le numérique en circuit court quoi. Ça existe déjà, il y a beaucoup effectivement, malgré ce qu'on disait en introduction, il y a quand même pas mal d'acteurs dans tout un tas de secteurs quoi.
C'est ça, il y a beaucoup d'acteurs qui sont de plus ou moins fragmentés en fait. Parce que voilà, ça fait plusieurs années qu'on fréquente les copains d'à côté dans l'espace forum. Là, on les connaît, voilà, on se connaît tous un peu plus ou moins, mais c'est du mal à fédérer tout ce monde-là et faire ensemble qu'ils puissent communiquer et créer des choses ensemble. C'est pas évident. Il faut pouvoir le structurer. Ils sont pas tous structurés de la même manière. Mais sinon, je voulais, ouais, pour venir à ce que tu disais aussi, effectivement, le nerf de l'événement aujourd'hui, c'était de montrer que s'en emparer, comme disait Géraldine, c'est pour ça qu'il y a des ateliers, l'expo, elle est jouable, qu'on a demandé à tous les exposants forum de faire une pratique, que les gens puissent venir et faire quelque chose. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les visiteurs soient juste spectateurs et qu'il faut qu'ils puissent devenir acteurs, qu'ils manipulent et justement de pouvoir voilà, créer cette émulation, de faire en sorte que bah oui, on est tous en fait, on manipule tous le numérique, plus ou moins. Et du coup, c'est de faire en sorte que je peux le manipuler et je peux créer des choses que je ne soupçonnais pas forcément. Parce qu'il y a, dans les utilisateurs numériques, il y a celui qui va créer quelque chose et ça c'est ce qu'on veut faire à tout le monde en fait. Et puis il y a la grande majorité, c'est juste des consommateurs.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on manipule le numérique, mais on se fait aussi un peu manipuler par lui parce qu'on le connaît pas très bien.
C'est
quoi.
Ça. Et puis il a été pensé pour qu'on pense à votre place aussi. C'est pour ça que le cinéma interactif, c'était l'idée aussi. Par exemple, même le cinéma, voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez comprendre des arcanes de construction, d'une narration, enfin.
D'ailleurs, oui, il va y avoir ça. Il y a du cinéma interactif sur ce festival. Expliquez-nous un petit peu ça. Alors ça, c'est avec le Courtivor, qui est une association qui fait partie de Pixel, en quelque sorte. Hein.
C'est ça, c'est des...
Une fusion, là, qui
oui,
s'est opérée.
Ils font partie de la naissance de Pixel. Il y a eu trois assos, dont le Courtivor, du coup.
Et donc, le cinéma interactif, ça, c'est quoi exactement?
Alors,
qu'est-ce qu'on va vivre ici comme expérience?
On va avoir le film Tantale, qui va être diffusé. C'est l'agence de production.
La générale de production, et c'est réalisé par Gilles Porte.
Ouais,
et c'est un peu un film dont vous êtes le héros, un peu comme on trouvait dans les années 70-80 dans les livres, en fait. On va pouvoir choisir la suite de l'histoire. Donc là, on a un peu de nouvelles technologies aussi.
Et comment ça marche? On est face à l'écran?
Alors, on va avoir un écran qui va être projeté. En début de séance, on va avoir un écran qui va nous indiquer qu'on peut utiliser nos téléphones. Donc on va prendre son téléphone, on va avoir une petite démarche très facile à faire pour se connecter au réseau, en fait. Interne de la salle. Et suite à ça, on va se connecter au film via un mot de passe. Et chacun d'entre nous, on va pouvoir voter pour ce que va devoir suivre, l'action qui va être à suivre, en fait. C'est-à-dire que le film se met en pause. C'est-à-dire qu'on entend dans la bande-son est fait essentiellement avec une voix off. C'est la voix off du président, je vais pas tout raconter, mais voilà, du personnage principal. Il pense à haute voix et il se pose la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève ou est-ce que je reste assis tranquillement, quoi? Et là, chacun avec son téléphone, on vote. Oui, tu te lèves. Non, tu restes assis.
On a un ordinateur qui va récolter les réponses. Tout va être
centralisé. Je reste avec le micro en face, pardon. Tout va être centralisé par l'ordinateur et il va voter. Bah, la majorité l'emporte. Et du coup, si la majorité a décidé qu'on allait se lever pour ouvrir la porte, on va se lever et ouvrir la porte.
Ça, là... Un film démocratique.
Oui, c'est ça. C'est voilà. Ce que j'allais dire. On parle aussi de démocratie quand on parle de se réaccaparer les instruments du numérique, les technologies du numérique et aussi la narration, en fait.
C'est ça. Alors là, en plus, avec la particularité, c'est que les films interactifs, il y en a pas mal qu'on peut déjà essayer chez soi. Il suffit d'être un peu curieux. Tantal, par exemple, vous pouvez l'essayer de chez vous. Il est en ligne, c'est RT qui le dépose. Il suffit de mettre tantal.fr, je crois qu'on tombe dessus. Et avec son propre téléphone ou son ordinateur portable, on peut déjà essayer l'expérience tout seul. Mais là, ce qui est plus marrant encore, c'est que, effectivement, c'est le vote du public, c'est une démocratie, c'est-à-dire qu'on voit en plus les jauges, on voit combien, que c'est 51, il est passé, ou à 100% tout le monde a été OK, donc on va pouvoir déjà avoir cette sensation-là, de vote immédiat avec les réponses-là, et on n'aura pas à attendre un quinquennat entier pour voir s'il y en a eu raison ou pas, ça va se voir tout de suite, voilà.
Et on peut recadrer le tir éventuellement.
Et éventuellement, alors, ouais. L'avantage, oui, on va pouvoir recadrer, parce qu'on va faire une première diffusion ce soir à 20h, l'expérience dure environ une demi-heure, environ, je peux pas vous dire, parce que c'est, en fait il y a 25 fins possibles dans le film, donc je sais pas laquelle on va avoir ce soir. Ensuite, le Courtivore a programmé une heure de programmation de film sur notre thème, sur le numérique, sur la culture, etc. Et on va reprojeter le film par la suite. Donc on peut essayer autre chose après avoir la suite et avoir une autre sortie. Et puis on a prévu aussi de vous montrer l'arborescence du film, voilà, comment il a été construit. Voir toutes les possibilités, c'est-à-dire scène par scène, on aurait pu aller là, on aurait pu aller là, etc.
Et là, on touche un petit peu, effectivement, à, même si l'expo est intitulée Labyrinthe, au nœud aussi de ce festival, c'est-à-dire la narration interactive. D'ailleurs, il y aura une table ronde sur la question, puisqu'il y a deux tables rondes. La première, donc aujourd'hui, à 16h, les narrations interactives. Donc j'imagine qu'on va parler de ce dont on vient de parler en élargissant à d'autres supports. Et puis, on a demain, à partir de 14h, les architectures impossibles. Alors ça, c'est aussi dans la construction, on va dire, de la narration, finalement.
Ouais, on va aussi aborder un peu plus la notion d'espace, parce que là, on avait le labyrinthe qui était un labyrinthe un déplacement plutôt dans une narration, effectivement, et puis dans l'architecture impossible, on va pouvoir apporter aussi une notion plus concrète, qui pourra s'appuyer, par exemple, sur les tableaux des chairs qu'on a pu avoir en présentation, sur des jeux comme Monument Valley, où on est vraiment sur ces jeux d'optique et sur des architectures qui, bah, grâce au numérique, grâce à la représentation, est possible, sauf qu'en réalité, elle n'est pas possible. Donc il y a ces choses-là. On va avoir une conférence, peut-être que tu peux en parler un peu plus.
On va aussi avoir quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus dans la réalité, moins dans la narration. Donc toujours sur cette idée d'architecture et d'espace, avec Stani Cambo, qui est fondateur d'Échelle Inconnue, donc une association autour de l'architecture qui parle d'architecture, mais de façon un peu plus décalée. Et en fait, il va nous parler d'un réseau souterrain qui crée des sortes de galerie en fait en Russie. Donc il en parlera beaucoup mieux que moi, mais il est vraiment spécialiste de ça, il a fait un film dessus et c'était une idée d'ouvrir justement à tout ce qui est réel et ce qui existe vraiment. Est-ce que ça veut dire quoi vraiment l'idée du labyrinthe aussi?
Et là c'est ça, on revient sur la thématique de l'exposition qui est ici jusqu'au 22 février, c'est-à-dire donc le labyrinthe. Pourquoi avoir choisi cette thématique du labyrinthe alors du coup?
Parce que c'est un motif qui revient déjà beaucoup en fait dans la pop culture et dans la culture en général, que ce soit quelque chose de visuel ou non. En fait, on a aussi tout ce qui est psychologique derrière.
Le labyrinthe de notre cerveau, en
exactement.
Quelque sorte.
Exactement. Donc, parfois, on peut le visualiser. Du coup, ça a toujours un aspect aussi une sorte de métaphore aussi de notre cerveau, en effet. Et donc ça nous intéressait de montrer en fait tout ce qui peut être développé autour de ce thème-là, qui en fait est très large finalement.
Ouais, bon. C'est un thème qui permettait aussi à chacun de retomber dessus, de pouvoir que chaque partenaire puisse se l'accaparer, puisse trouver quelque chose à montrer, de rebondir. C'est un thème qui est riche et qui nourrit très vite. Et puis je pense que il est plutôt marrant, on revient sur le circuit imprimé, on est le labyrinthe du circuit imprimé, il est à la fois très compréhensible immédiatement et à la fois on peut rentrer dans un truc très métaphysique,
drôle et angoissant à la fois.
Donc, Il est à la fois visuel, il est à la fois très intellectualisé, enfin, on peut en faire beaucoup de choses.
Très donc, riche comme, ouais. Comme le festival Setup qui se déroule donc durant tout le week-end avec beaucoup de choses, on l'a dit, hein, des ateliers pour mettre les mains un peu dans le cambouis, on va pouvoir jouer, on va pouvoir donc faire du cinéma interactif, on va pouvoir aller à l'écoute de certains spécialistes qui vont nous parler de narration interactive ou d'architecture impossible. Également, on n'a pas parlé de ça, la jam de création, ouais. Qui est aussi un moment important aussi, j'imagine. Sur deux jours, donc, on a des gens, là, des techniciens, des littéraires, tout un tas de gens différents qui vont travailler sur la création de quoi ?
Alors, ils sont partis sur une application. J'ai fait la présentation, là, puis ils nous ont présenté leur idée. Il y a neuf profils. Je vais dire profils parce que on revient un peu à ce qu'on disait en début d'émission, c'était l'idée justement de réunir, donc là on a un petit échantillon de ce qu'on voudrait pouvoir faire à une échelle un peu plus grande au sein de Pixel. Il y a des musiciens, il y a des graphistes, il y a des développeurs, il y a des scénaristes, voilà, et c'est vrai que du coup ils sont assez variés, qui se sont réunis hier soir et qui vont, voilà, on va dire en deux jours on fait quelque chose, voilà, on se connaissait pas, certains se connaissaient, d'autres non, ils se sont rencontrés hier et ils réalisent une application, du coup en plus on leur a pas demandé mais ils retombent parce que c'était pas là
sur le labyrinthe,
ils retombent forcément sur le labyrinthe parce que c'est ouais. Le thème imposé. Mais ils ont joué vraiment le labyrinthe justement dans la narration interactive non linéaire. Ils n'ont pas recherché juste on va faire un labyrinthe visuel puis on va avoir un petit bonhomme qui se déplace dedans. Parce que je pense que c'était un peu trop facile pour eux. Ils sont partis vraiment sur une narration au final avec des choix multiples.
C'est-à-dire qu'avec un téléphone, on va pouvoir télécharger cette application et on va pouvoir vivre quelque chose.
C'est les ambitions qui se sont données.
Bon, donc, on va attendre.
Je ne peux pas promettre, mais
ça va se construire deux jours.
Voilà, concrètement, sûrement, ouais, il y a des gens qui construisent un produit culturel. Non commerçants, enfin juste comme ça pour rigoler, pour la beauté du sport.
Bon, bah si vous
c'est
voulez
cool, ça, déjà.
Venir voir ça, ça se passe au 106 durant tout le week-end, puisque c'est un festival avec de l'expo jusqu'au 22 février, jam de création, tournoi de jeux vidéo, atelier tout public, table ronde, espace forum, émission de radio, la preuve en ce moment même, mais il y en aura deux autres des émissions de radio, on va avoir l'occasion d'en reparler. Une roulotte scarabée à l'entrée de la salle avec un jeu proposé par le collectif d'artistes HSH, et puisque c'est un festival en partenariat avec des collectifs et ou associations, on va les citer, on les connaît bien dans la région pour la plupart, le Courtivore, HSH, Crew, Glitch Lab, La Roulotte Scarabée, Rollist TV, Norgeek, Les Copos Numériques, Akara, Geekmic, N-Factory, Matos & Game, Rouen Enigma et puis des institutions comme la Maison de l'Architecture ou le réseau des médiathèques de la ville de Rouen RNB. Voilà, on a fait le tour.
Il y a l'agence légendaire aussi, j'en profite parce qu'ils proposent un petit jeu, puis je suis content parce que je vois que les gens y participent et c'est plutôt cool. Ouais, on a l'agence légendaire à proposer un petit jeu sur le thème du labyrinthe. En fait, ça va nous permettre, il y a des énigmes à résoudre, toutes un peu dissimulées partout dans le bâtiment. Et qui,
avec des timecodes.
Voilà, alors c'est plus ou moins concret. Je ne vais pas tout révéler, puis ils pourront vous expliquer mieux. Et ça va aussi inviter les gens à justement aller sur les ateliers, à participer pour pouvoir récolter des infos. Et du coup, forcer les gens à ne pas avoir peur, ne pas rester juste à je me balade, je regarde de loin. Là, ils vont être obligés d'y aller un peu, puis c'est plutôt marrant. Il faut venir en famille, il y a plein de choses pour la famille en fait pour le coup.
Bon bah bon festival.
Merci beaucoup.
Merci.
Radio Lomax.
Géraldine, vous restez deux secondes avec nous. Vous nous avez mis en relation avec une blogueuse rouennaise. Est-ce que vous nous la présentez en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, oui, on est en compagnie de Violaine.
Bonjour Violaine.
Bonjour. Du blog Geekmic, donc un blog dédié aux jeux vidéo où tu fais des chroniques sur des jeux que tu testes. Il y a aussi des jeux un peu tout pourris que tu aimes bien nous présenter.
J'aime bien tester des jeux pourris. Voilà. Des bons nanars.
Des bons nanars. Et puis, du coup, tu donnes ton avis et. Tu es accompagnée de Mélodie.
Mélodie, ouais, qui joue aussi beaucoup aux jeux vidéo, mais qui regarde beaucoup plus de séries que moi. Donc elle s'occupe plutôt de la rubrique séries ciné.
Et comment il est né ce blog alors ?
Il est né il y a 5 ans, parce que en fait, mes copains, quand ils me demandaient à quel jeu je jouais en ce moment, je me partais dans des monologues de 15 minutes. Et puis il y a un pote un jour qui m'a dit « Mais tu veux pas faire un blog en fait, plutôt que de nous saouler ?» Il l'a pas dit comme ça, mais c'était un peu ça. Et puis l'idée est restée un peu en tête. Et puis un jour, j'étais énervée, je m'ennuyais, dans le sud, il pleuvait. Et du coup, je me suis allée, hop, et en une matinée, c'était créé. Et c'était il y a 5 ans.
Et à quoi il sert finalement ce blog ? C'est quoi ? C'est la possibilité de montrer des coups de cœur, de donner des directions, d'expliquer un peu l'envers du décor ? C'est quoi finalement ?
Alors, l'intérêt, bah, moi déjà, je bosse à côté. Déjà, dans mon boulot, je fais beaucoup de rédaction. Il y a une frustration parce que moi, j'aime bien écrire avec humour, me lâcher. Je n'hésite pas à utiliser des gros mots sur le blog ou des trucs comme ça. Mmh. Voilà. Et du coup, là, c'est la liberté de ton, moi, que je recherche à la base. C'était plus me faire plaisir. Je cherchais même pas... Évidemment, je suis plus contente s'il y a de l'audience derrière, mais je cherchais même pas forcément de l'audience. Et puis finalement, moi, c'était aussi de parler des point and click et des jeux d'aventure parce que je trouvais que c'était un peu délaissé ces dernières années. Là, ça revient un petit peu à la mode, heureusement.
Quel est le terme que vous avez utilisé avant les jeux d'aventure ?
Ah, les point and click.
Qu'est-ce que
pointer
c'est que...
et cliquer. Ah. C'est-à-dire des jeux où on va essentiellement jouer avec la souris.
D'accord.
Tout simplement. Et interagir avec les éléments du décor. Donc ça, c'est vraiment les jeux, je suis tombée là-dedans, je crois que j'avais... 7-8 ans.
Ouais.
Et depuis, bah, c'est le grand amour. C'est vraiment mes jeux préférés. Les point and click, c'est voilà, ma spécialité. Et du coup, c'est l'occasion d'en parler sur le blog, puisque finalement, il y a beaucoup de blogs de jeux vidéo, mais les point and click ne sont pas les jeux dont on parle le plus aujourd'hui.
Et beaucoup de jeux narratifs, finalement, en fait, aussi.
Et le jeu narratif, oui. Ouais. Moi, le scénario, c'est le premier truc qui m'intéresse dans un jeu vidéo.
Il y a une ligne artistique, une ligne philosophique, une ligne rédactrice
Toujours de l'humour. Quand
voilà.
On...
Se faire plaisir et rigoler, quoi.
Voilà. Et puis, on aime bien parler, en fait, comme si on s'adressait à la personne en direct. C'est un ton très... On essaye d'avoir un ton assez oral, en fait, quand on écrit.
Bon. Je sais que vous êtes fan du travail de Quantic Dream, développeur français de jeux vidéo. Et ça tombe bien, puisque nous allons recevoir un de ses artisans, Benjamin Diebling, qui sera autour de la table ronde cet après-midi à 16h, consacré aux narrations interactives. Du coup, vous restez avec nous, Violaine, pour lui poser quelques questions.
Oui.
Après cet échange avec Benjamin, on va retrouver la chronique de Nico du podcast L'Anthropode, qui est resté avec nous, qui fera son émission demain à 16h, enfin avec tous les membres de L'Anthropode, parce qu'ils sont nombreux, à retrouver en direct toujours sur la web radio du 106, et puis ensuite forcément en version podcast sur internet. On va se glisser Loya dans les oreilles, Loya qui sera lui en DJ set demain dès l'ouverture du 106 pour la deuxième journée de ce festival des arts numériques à Rouen Setup, premier du nom. We'll be right back. Enfant Team Carbon Remix, Loya qui sera donc en DJ set demain ici à l'ouverture. Et l'ouverture demain, elle est prévue à 11h, je crois. Donc il va falloir venir tôt pour profiter de ces excellents mix réguliers que nous fait Loya. Benjamin Dibling est avec nous. Bonjour, Benjamin.
Bonjour.
Et donc nous avons toujours Nico de l'Anthropode, oui. Et Violaine toujours qui est là de Geekmic pour poser quelques questions. Benjamin, vous êtes réalisateur et scénariste indépendant, notamment responsable des tournages chez Quantic Dream, le studio de production parisien. Vous avez été cadreur motion capture sur Beyond Two Souls. Vous nous en dites un petit peu plus sur ce boulot. Qu'est-ce que c'est qu'un cadreur motion capture?
En fait, tout a commencé donc au studio Quantic Dream lorsqu'ils cherchaient des cadreurs. Et moi, pour le coup, je viens du cinéma. Donc, je me suis demandé ce que ça voulait dire moi aussi, hein, à cette époque, parce que cadreur cinéma, je savais, cadreur motion capture, j'étais perdu.
Ouais.
Et donc, je suis allé à l'entretien. Ils ont fait la bêtise de me prendre, donc j'ai découvert ça. Et en fait, ma cadreur motion capture, c'était un truc entre guillemets assez simple, c'est la motion capture, donc c'est l'art de capturer des mouvements qui sont sur un plateau de motion capture, donc avec une centaine de caméras qui capturent le moindre mouvement, même on capture un millimètre, un clignement d'œil, on le capture. Et donc nous, notre travail en cadreur, parce qu'on était trois, c'était de filmer ce qui se passait sur le plateau, parce que vu que les caméras motion capture capturaient juste un mouvement 360, il fallait des vraies caméras. Et les vraies caméras, c'était des vrais cadreurs qui venaient les tourner pour les donner au reste du studio pour qu'ils voient ce qui se passait sur le plateau. Et donc c'était assez drôle parce que mon premier jour de tournage, c'était avec Ellen Page et Willem Dafoe qui sont deux acteurs hollywoodiens assez dingues. Et donc ça a été mon premier jour et j'ai fait ok, j'aime cet endroit.
Et donc c'est ce qui permet ensuite de travailler sur le mouvement des personnages dans un jeu, quoi.
Absolument. En fait, pour comprendre un peu la motion capture, c'est on capture des mouvements qu'on intègre après à un environnement en 3D et on va le filmer. Et c'est cet environnement que les joueurs de jeux vidéo vont pouvoir voir en jouant, tout simplement.
Alors, vous avez également travaillé sur ce jeu qui vient tout juste de sortir, Detroit Become Humans. On va en parler. Formation scientifique, 3 années de formation à l'école supérieure d'études cinématographiques. Vous avez également intégré la Sydney Film School en Australie. J'imagine donc que vous regardez l'actualité avec un œil un peu particulier.
Faut savoir que l'actualité, il faut la regarder tous les jours, surtout quand pour mon métier réalisateur, faut la filtrer, faut l'absorber, mais des fois en fait ça passe à travers ces filtres un peu froids et c'est sûr quand ça touche l'Australie, un pays où j'ai appris beaucoup, ça fait particulier. Après ça fait une émotion particulière. Là, après moi ce que j'essaye de me dire c'est que ça me conforte juste dans mes idées écologiques en fait et politiques.
Et donc, vous dites qu'il faut regarder l'actualité en permanence, c'est pour rester dans l'air du temps, parce que c'est important de rester dans l'air du temps, c'est ça ou
Alors, c'est pas pour rester dans l'air du temps, c'est pour comprendre, surtout.
Ça, c'est important pour capturer la réalité, pour la réintégrer dans des scénarios, par exemple.
Absolument, mais puis surtout, en fait, le cinéma et le jeu vidéo sont des médias qui avancent constamment, année après année. Faut savoir, par exemple, la série télé, il y a 10 ans, ça avait pas une place comme ça dans le paysage. Si on se tient pas régulièrement au courant de ce qui se fait, en fait, on va être pas ringard, mais un peu old school. Et il y a des nouvelles manières de raconter des histoires qui arrivent constamment sur les différents médias, que ça soit le cinéma, le jeu vidéo, ou tout ce qu'il y a entre, hein, les BD interactifs, le théâtre immersif, la VR, l'AR. Donc tout ça, c'est des nouvelles manières de raconter des histoires, et moi, ça m'intéresse. Parce que moi, en fait, mon métier, c'est ni réalisateur, ni scénariste, c'est juste je raconte des histoires, en fait. Et puis il y a des médias différents, des fois.
VR, c'est réalité virtuelle. AR, c'est
Réalité augmentée, pardon.
Réalité augmentée. Donc vous avez fait vos armes avec des courts-métrages, des clips et des pubs. Est-ce que vous êtes toujours aussi scénariste de jeux de rôle ?
Absolument. Encore plus maintenant qu'avant. En fait, je me suis rendu compte il y a je pense un an et demi, quand la production de D3 s'est terminée, qu'il y avait un truc qui manquait énormément, deux choses, c'était le jeu de rôle et l'écriture. Et j'avais écrit quelques scénarios de jeu de rôle il y a une dizaine d'années, et puis je traînais toujours dans le milieu, puis donc j'ai juste contacté quelques éditeurs en leur disant « ça te dit, j'ai 2-3 idées ». Et on m'a dit « ouais, vas-y », et puis donc j'ai commencé à écrire sur différents jeux. Donc là, il y a Tales from the Loop, il y a Valérian, il y a Meut, voilà, il y a quelques jeux de rôle français. Esteren, là, voilà. Dragon aussi, qui est une version avec les règles de Donjons et Dragons, donc de la 5e édition. Voilà. Et pourquoi je fais ça ? Pour un truc tout bête, c'est parce que le jeu de rôle, c'est un des endroits, à mon humble avis, qui est un des endroits les plus créatifs à l'heure actuelle avec le monde de la BD. C'est-à-dire que le jeu vidéo, le cinéma, il y a des choses très belles, très intelligentes, mais je pense que le jeu de rôle et le monde de la BD ont énormément d'univers à proposer, en fait.
Est-ce que ça a formé une écriture particulière chez vous, une écriture qui met le cerveau dans un certain mode ?
Alors, j'ai toujours pensé comme ça, parce que moi, je fais du jeu de rôle depuis que je suis tout petit. J'ai commencé avec mes 3 grands frères, puis j'ai enchaîné avec mon meilleur pote, puis après, j'avais un club et j'ai monté un festival. Et le jeu de rôle, pour moi, c'est une forme de narration pure, en fait, où on mélange parfaitement l'écriture en amont et l'immersion des joueurs et des participants. Pour moi, il y a une espèce de pureté dans l'écriture, où on va écrire un monde, on va écrire un scénario, des intrigues, il y a tout dedans. Alors, et donc j'ai toujours pensé en 2 dimensions qui est le temps et l'espace, comme le cinéma, mais avec une nouvelle dimension qui était tout simplement l'interaction qu'on pouvait avoir dans cette histoire.
Violaine, je vais te donner la parole parce que tu as le temps de poser toutes tes questions.
Ouais.
Alors on y va, tes questions à Benjamin.
Déjà, j'en avais une première. Moi, je trouve que Quantic Dream, tu me diras si je me trompe, tu seras peut-être pas totalement objectif, mais et un des rares studios à avoir vraiment poussé la notion de choix et de conséquences aussi loin. Dans beaucoup de jeux vidéo, on nous promet justement, on a tout un tas de promesses. On s'attend vraiment à avoir une fin ultra sur mesure, et souvent les choix sont assez illusoires. Est-ce que déjà, tu seras peut-être pas d'accord avec ça, et comment tu l'expliques aussi, si tu es d'accord ?
Alors, pour moi, il n'y a pas de rapport d'échelle avec les autres studios. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est que nous, on a poussé l'interactivité le plus loin qu'on pouvait, et je pense plus loin que beaucoup d'autres studios. Au détriment peut-être d'autres choses, hein, ça c'est pas à nous de le décider. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait, c'est que à la fin de cette expérience, le sentiment du joueur, c'est tiens, c'est mon histoire. Et j'ai vraiment eu un impact sur l'histoire que j'ai vécue. Je repense à 2-3 jeux qui avaient effectivement fait cette promesse et qui l'ont pas tenue. Mais pour moi, il y a des jeux qui le tiennent sans mettre ça en avant. C'est tout ce qui est les adaptations de jeux de rôle. Je pense à Baldur's Gate, je pense à Planescape Torment. Qui avaient des propositions super intéressantes en termes de quêtes secondaires, d'immersion avec votre personnage. Moi, ça, j'aimais beaucoup. Je trouve ça extrêmement pertinent. Un peu moins tout ce qui a été Skyrim et Oblivion, Morrowind, qui étaient eux qui partaient dans un curseur où en fait on noyait son personnage dans l'univers. Le personnage, il n'avait pas d'impact sur l'univers. Moi, je me rappelle d'un moment où moi, j'ai détesté ce jeu à cause de ça, où littéralement j'avais sauvé le royaume, puis j'arrive dans une ville et le garde de la ville que j'ai sauvé me dit « Ah, bonjour, il faut une pièce d'or pour rentrer. » Et je fais « Mais je viens de sauver ton royaume. » Et ça, pour moi, c'est la limite.
Ouais.
C'est la limite de l'immersion, de la narration immersive.
Ouais.
Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'était, c'était que chaque détail comme ça soit immersif et interactif.
Ouais.
Donc voilà, donc je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais nous, en tout cas, on a essayé de pousser ça.
Et ça demande beaucoup plus de travail, j'imagine. C'est aussi pour ça, peut-être, que peu de studios se lancent vraiment jusqu'au bout, parce que faut quand même, c'est presque, je dirais pas que c'est du sur-mesure, mais il y a quand même énormément d'embranchements dans D3 Become Human. J'imagine que ça a pris un temps monstrueux par rapport
2014, je crois, tu travailles sur
ouais, on a commencé, on a fait 5 ans. Pour donner une idée, moi, je vais parler du tournage parce que c'est vraiment ça que dont je m'occupe. Un film, c'est 40 jours de tournage. Détroit, c'est 400 jours de tournage. Donc, généralement, on tourne à peu près 3-4 pages de dialogue dans un film par jour. Nous, on était à peu près à 30-35 pages de dialogue. Donc, en plus du fait qu'on a beaucoup tourné, c'est extrêmement intensif. Mais tu t'as très bien, vous avez très bien expliqué pourquoi. Pour un truc tout bête, c'est qu'il y a tellement d'embranchements qu'il y a littéralement des scènes entières qu'on a tournées, que même en faisant 3 versions du jeu, on va jamais voir cette scène entière. Et une scène, ça veut dire 10 jours de dialogue, 3 semaines de cascade, des artistes qui travaillent, qui font les décors, les animations, moi de la préparation sur le plateau de tournage avec les acteurs, l'écriture, et tout ça, des fois, il y a des gens, ils le voient même pas.
Du coup, il n'y a pas de frustration un petit peu qui naît de ça, non ?
Non, moi, en fait...
Avoir des scènes extraordinaires et de se dire, ça se trouve...
Je suis plutôt excité par cette idée, en fait. Moi, j'adore l'idée qu'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, oh, j'ai adoré le jeu, et il a fait juste une version du jeu, et je lui dis, ah, t'as vu cette scène, non, et je laisse le silence prendre place et dire, ah bah tu devrais essayer, tiens. Moi je trouve ça excitant de se dire qu'on a fait une version du jeu et d'autres en ont fait une autre, en fait.
Ouais. Mais c'est vrai que rien que moi, avec des proches, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même jeu. Hein. C'était assez drôle de justement d'échanger sur nos expériences, parce que certains étaient dégoûtés. Quoi, toi t'as fait cette scène, moi j'ai jamais vu ça, comment t'as fait, et puis à refaire le jeu exprès. Enfin, vraiment, la rejouabilité, pour une fois, je l'ai trouvée vraiment intéressante.
Cool. Moi, je pense à la première scène de Détroit, qui est une prise d'otage, dont je peux parler sans spoiler.
Oui.
Moi, déjà, là, le fait qu'on ait plusieurs fins à cette même scène, où littéralement, je vais le spoiler, le personnage principal peut mourir à la première scène, un des 3 personnages. Nous, c'est on s'est regardé, on a fait « Oh, c'est génial !» On était super contents de faire ça, quoi.
Ouais, c'était quand même assez... Moi, là-dessus, ça m'a quand même... Bah, justement, mon copain a fait aussi le jeu, et moi, j'avais réussi à survivre à cette scène-là, et lui était mort. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, non, ils n'ont pas osé, quoi. C'est génial. Je voulais revenir sur le jeu d'acteur. Justement, je me posais la question. En fait, le choix des joueurs influe énormément sur l'attitude du personnage. Je pense notamment à Connor, qui peut être hyper, docile, comme il peut être se rebeller contre ses propres chefs. Du coup, pour l'acteur, ça doit être quand même compliqué, parce que comment vous le préparez à ça ?
Avec beaucoup de temps. Déjà, c'est marrant parce que la préparation de Brian, donc Brian Descartes, qui est l'acteur qui a joué Connor, elle s'est faite de manière extrêmement naturelle. Déjà, c'est un acteur incroyablement talentueux. Je pense un des meilleurs acteurs qu'on a eu sur Détroit. Et il a été très, scolaire sur sa préparation. C'est-à-dire, il a reçu le texte en avance, il a appris, ce qui m'a fait halluciner, parce que, en gros, par semaine, on est à peu près à 150-200 pages de dialogue par semaine. Donc, il faut les apprendre, hein, c'est impressionnant. Surtout qu'on tourne par bloc de 2 semaines. Donc, en fait, il avait tout appris, puis on s'est fait un appel un mois en avance. Et il avait un système assez drôle pour séparer les scènes où il devait parler et qu'il était devenu donc déviant, et les scènes où il était resté une machine. Et en fait, il avait une technique, c'est qu'il surlignait pas avec la même couleur le script. Et le résultat, pour comprendre ça, c'est que dans une même prise, parce qu'on a le décor, on a les personnages secondaires, dans une même prise, on va faire le choix A et le choix B. Donc en fait, il y a par exemple... Je vais vous donner un exemple tout bête. Il dit « Est-ce que tu es en colère contre moi ?» Et si c'est une machine, il va dire « Non, je ne ressens pas d'émotion. » Et il va se resetter, revenir à la position d'avant. Il va faire « Mais bien sûr que je suis en colère contre toi !» Et dans la même prise, à 5 secondes d'écart. Et donc pour ça,
c'est une performance,
un talent d'acteur incroyable. Et nous, on a un travail de préparation en amont absolument dingue. Alors, petite anecdote assez marrante, c'est que Brian joue au jeu de rôle. Et en fait, nous, on parlait d'alignement, comme dans Donjons et Dragons, pour penser aux différentes versions de son personnage. On disait, tiens, quand t'es déviant, t'es chaotique bon, quand t'es resté une machine, t'es loyal neutre, etc., etc. Donc, il y avait un truc assez marrant où dès le début, on a commencé à parler de jeu de rôle pendant la préparation.
Et alors, ce qui est extraordinaire, juste, c'est que j'imagine que les comédiennes, les comédiens abordent un nouvel exercice dans leur vie de comédien. Est-ce que ça, ils sont friands de ça ou est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce que... Comment ils abordent le sujet?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est un mélange des deux, en fait. Moi, à chaque fois qu'il y a, même quand il y a des gens à l'extérieur qui viennent visiter notre plateau, je leur pose une question. C'est quand ils sont au milieu du plateau, je dis, qu'est-ce que vous ressentez là? C'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Et généralement, c'est angoisse, peur, impressionnant, vide. C'est des mots super agréables. Et en fait, c'est exactement ça qu'on ressent quand on arrive. Et nous, notre travail, c'est en tant que réalisateur, c'est pas de créer un cadre comme sur un plateau de cinéma, mais c'est de prendre par la main les acteurs et les amener dans un monde imaginaire qui n'existe pas encore, qui est le monde du projet sur lequel on est en train de travailler. Et ça, en fait, c'est un peu déroutant pour les acteurs qui découvrent une nouvelle manière de travailler. Moi, je pense à Clancy Brown, qui est un acteur qui a travaillé avec nous sur Détroit, qui est un acteur que vous avez vu dans Les Évadés, dans pas mal de choses. Et c'est un espèce d'ours super grand qui arrive sur le plateau, je me rappelle, le premier jour. Et puis il s'assoit et il regarde le décor, il est très calme. Et moi, il y a un truc bizarre. Et on répète toute la journée, puis il sort prendre une cigarette. Et il me regarde et il me dit, c'est quand même un peu bizarre ce qu'on fait là. Et là, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça. Je comprends tout à fait parce qu'on arrive, on met des espèces de pyjamas, on est dans un gymnase avec des 80 caméras. On vous met 90 marqueurs sur le visage qui font une toute petite taille, la taille d'un, même pas d'un ongle, d'un quart d'ongle. Et vous devez tourner avec une combinaison moulante, des marqueurs sur le visage, ouais. Avec des props, donc des accessoires qui sont en plastique. On doit tourner comme ça. Donc il y a un côté comme quand on était petit à la cour de récré et qu'on s'inventait un monde. Mais sauf que là, on le fait, on est adulte et on a l'air un poil ridicule.
Bien, on dit qu'on est un super guerrier.
Non, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que le jeu de rôle m'est vachement utile, en fait, pour ce métier.
Bien.
En effet. Et du coup, justement, en parlant de ces acteurs, donc on voit de plus en plus d'acteurs du cinéma du coup, qui viennent dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on pourrait imaginer, d'ici quelques années, que l'inverse se passe? C'est-à-dire que des acteurs du jeu vidéo, je pense notamment à, je vais peut-être écorcher son nom, mais Mélanie Jurgens, qui a joué dans Hellblade, Senua's Sacrifice, qui a quand même fait une performance énorme. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces acteurs-là aussi viennent à travailler au cinéma?
Moi, je suis largement pro parce qu'un acteur, il est là pour jouer, donc pour jouer et raconter une histoire avec son corps et sa voix. Mais qu'ils soient en train de raconter un jeu vidéo ou un film ou une série télé ou même une pure fiction audio, pour moi, tout est possible. Et je trouve ça normal quand on va chercher des acteurs à Hollywood ou du théâtre, mais j'aimerais bien que l'inverse se passe. Effectivement, l'actrice de Hellblade, qui à la base, elle est monteuse, hein, c'est la monteuse du projet, qui avait une performance incroyable, mais bien sûr, s'il y a un rôle, il faut que les gens aillent chercher des acteurs du monde du jeu vidéo. Un, parce qu'ils tournent vite, donc ça vous fera gagner beaucoup d'argent, mais surtout parce qu'ils ont un talent incroyable, et ils ont un talent de théâtre, en fait, parce que le jeu vidéo est plus proche du théâtre que du cinéma, dans le sens où on n'a pas de cadre, et on joue avec tout notre corps en mouvement. Il y a un côté un peu de scénographie qui s'installe.
Okay. J'ai encore un petit peu de temps.
Encore une ou deux questions.
Allez.
Une question. Allez.
Est-ce que vous êtes inspiré de films ou de séries pour Detroit Become Human? Moi, je sais que j'ai beaucoup pensé à Real Humans, la série suédoise, en y jouant. Évidemment.
Bien sûr. Alors après, il y a. C'est pas qu'on a des inspirations, c'est qu'on. On réfléchit à comment les autres ont fait pour raconter le même type d'histoire, ou en tout cas, quel est le langage qu'ils ont utilisé. Nous, pour Détroit, on a trois personnages jouables, et donc on voulait déjà trois manières de filmer différentes, trois compositeurs de musique différents, et on voulait surtout ce qu'on appelle un langage corporel différent pour chaque acteur, donc, notamment pour les différencier et les humaniser. Et donc, en fait, moi, j'ai un réalisateur qui m'inspire beaucoup, qui est David Fincher, qui a une réflexion ultra intelligente. Bon, c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. C'est, il dit dans « emotion, you have motion ». Donc, dans l'émotion, you have motion, donc mouvement. Et c'est ce qu'il veut dire par là, c'est que on raconte de l'histoire ne serait-ce que par le mouvement. Alors, moi qui fais de la motion capture, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il voulait exactement dire par ça? Et en fait, donc, si on regarde bien le travail de David Fincher, c'est un réalisateur qui millimètre tout. Sa manière qui demande aux comédiens de se lever, de se déplacer, de reculer, un regard. Et tout ça, en fait, ça donne du sous-texte et ça donne énormément d'informations au-delà du texte. Moi, je supporte pas le texte. Je trouve que si on raconte une histoire par le texte au cinéma, c'est qu'on a fait une erreur. Dans ce cas-là, il faut écrire un bouquin
c'est
ou une pièce
de mise en scène, quoi.
Ah oui, mais moi, les textes qui disent « Oh là là, je suis triste, mais j'ai envie de brûler le réalisateur. » Non, mais je suis vraiment en colère contre cette vague de réalisateurs qui fait ça. Alors qu'il y a tout. On a du montage, on a de la lumière, on a tout. On a du décor pour raconter une histoire. Et on se sent obligé de raconter l'histoire par le dialogue. Et donc, Fincher, il a cette idée brillante de raconter l'histoire par le mouvement. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce que dans Détroit, comme on peut le voir, chaque personnage a sa manière de se déplacer. Et même, chaque personnage a plusieurs manières de se déplacer en fonction de son environnement. Un personnage, dans une même scène, s'il est triste ou pas triste, il ne va pas se bouger de la même manière. Et ça, c'est des détails subtils que peut-être qu'il n'y a que 10% des joueurs qui l'ont vu. Par contre, il y a 100% des joueurs qui l'ont ressenti.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que oui, maintenant je vois comme la façon de se déplacer. Alors j'ai oublié son prénom, le meneur un peu.
Marcus.
Marcus, merci. Ouais. C'est vrai que lui, il a une façon de se déplacer bien particulière par rapport justement à Connor, qui va être très.
L'idée de Connor, c'était que c'était une ligne droite. Voilà, donc en fait, il y avait un objectif et puis il s'y dirigeait. Il était froid, il était mécanique.
Ouais.
Alors que Marcus, c'est un chef de meute, c'est un lion avec ses autres lions qui se déplacent. Donc il avait une manière assez circulaire de se déplacer en groupe. Et après, on avait Kara qui était très humaine, très chaotique, donc qui dépendait de la situation. Voilà. C'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on a créées pour tout simplement pour raconter une histoire.
Peut-être une dernière question. Vers quoi on va dans les années à venir en termes d'évolution des jeux, de leur interactivité, de la liberté de mouvement qu'on va peut-être gagner, de la narration, multiples entrées? Est-ce que l'objectif, c'est quoi? C'est de concurrencer de plus en plus la réalité?
Moi je pense qu'on se dirige vers un truc, c'est de plus en plus de l'interaction dans les médias. C'est-à-dire, je pense que le cinéma c'est un magnifique média. Moi je suis amoureux du cinéma. Par contre, je pense que de plus en plus de gens veulent interagir avec le média qu'ils consomment. Donc je pense à Bandersnatch que Netflix a proposé, qui est un épisode de Black Mirror jouable entre guillemets. Moi, je pense qu'il va y avoir plus en plus d'œuvres interactives qui vont arriver, tout simplement parce que c'est super agréable de tout simplement d'être actif comme spectateur. Donc ça, moi, je pense que c'est l'avenir. Et donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de porosité entre les différents médias pour proposer des contenus de mieux en mieux, en fait, des meilleurs contenus. Donc ça, c'est le premier truc que je pense. Et le deuxième truc, c'est qu'évidemment, ça va frapper très fort la barrière entre la réalité et les médias. Mais je pense que les anciennes générations vont trouver ça gênante, mais nous, on est toutes les générations s'adaptent. Je pense qu'il n'y aura pas de souci et on comprendra rapidement que c'est juste un média.
Ok, immergeons-nous dans le média, devenons le média, peut-être à un moment donné. Peut-être on aura l'occasion de reparler de ça. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Diebling.
Merci à vous.
Et merci à Violaine d'avoir participé à cette émission avec ces questions. Et puis on va retrouver Nico dans quelques instants. Mais juste, on va se quitter avec la BO des Goonies, parce que j'ai vu que c'était parmi vos films cultes, Madeleine, on va dire. Quoi.
Absolument, c'est un de mes films préférés.
Donc juste le temps que Nico s'installe, on va écouter un petit bout de la BO des Goonies. Thank you. la BO des Goonies, donc pour faire plaisir à Benjamin Diebling qui vient de nous quitter.
Et à moi aussi.
Et à toi aussi, Nico, ça tombe bien. Une BO sur laquelle on trouve Cyndi Lauper et The Bangles, mais que l'on doit au compositeur Dave Grusin, qui a notamment composé les musiques des films La Firme, Tootsie ou encore La Maison du Lac.
Radio Le Max, l'émission du 106.
Spécial setup festival avec l'Anthropode comme invité de Radio Lomax.
Une partie de l'Anthropode.
Une partie de l'Anthropode, un sixième, c'est
ah,
ça
voilà, c'est
Même plus que ça, vous êtes plus nombreux encore dans l'Anthropode.
On est huit.
Vous êtes huit.
Oui.
Ça commence comment et pourquoi l'Anthropode, ce podcast qui s'intéresse à la culture quoi, au sens large.
Exactement. Alors comment ça commence? Ça rejoint un petit peu l'anecdote que nous a cité tout à l'heure Violaine, c'est-à-dire... J'étais souvent avec des amis à parler de mes coups de cœur, ouais. Etc. Et puis au bout d'un moment, je me faisais la remarque que je répétais un peu toujours la même chose aux mêmes gens ou à différentes personnes dans la soirée. Et puis c'était toujours les mêmes personnes avec qui on s'intéressait au même sujet. Et puis écoutant beaucoup de podcasts, ça fait une dizaine d'années que j'écoute des podcasts depuis 2008-2009. J'avais un blog, mais j'avais envie de parler. Et puis le blog, c'était assez à sens unique. Je parlais. Mais il n'y avait que mon son de cloche et j'avais envie justement de confronter les avis et je me suis dit ça serait bien qu'on se mette autour de la table et puis qu'on mette des micros et puis quand quelqu'un a vu une nouvelle série, un film, une expo, on en parle et puis on essaye de convaincre les autres que c'est intéressant quoi, voilà.
Et donc l'Anthropode est né comme ça quoi.
Est né exactement comme ça en 2013, ça va bientôt faire donc bientôt 7 ans. C'est fini comme ça, on s'est dit bon, on va tester, voir ce qu'il en est, puis on va rester entre nous. Et puis de fil en aiguille, on a eu des invités, et puis plus ça va, plus on a d'invités en fait, et on garde cette espèce d'esprit de culture et de curiosité, surtout on essaye d'être curieux et de découvrir des univers qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est comme ça qu'on avait reçu par exemple Pixel il y a quelques années, et on est assez proche de cette situation.
C'est comme ça que s'est faite la connexion avec Pixel sur ce festival Setup par exemple.
Alors c'est vrai que c'est Pixel, comme nous on aime bien à participer à des événements comme ceux-là, on croit souvent Pixel parce qu'ils sont quand même très actifs dans la vie culturelle rouennaise, donc on les retrouve très régulièrement. Donc on a des sympathies réciproques et ce qui fait que on a envie de travailler ensemble. Enfin, ils sont venus nous proposer de venir et on n'a même pas réfléchi plus d'une demi-seconde. On s'est dit oui, vas-y banco, on y va, on va participer à cet événement qui a l'air très sympathique ici.
Donc vous êtes nombreux autour d'une table et vous évoquez donc un festival, vous évoquez des livres,
par exemple,
des séries.
C'est ça. En fait, on a tous plus ou moins une thématique.
Ça se bagarre un peu, ça
arrive pas forcément.
Ça rigole beaucoup.
Alors ça, c'est la bonne humeur, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Mais après, derrière, on va avoir quelqu'un qui va plutôt avoir une thématique cinéma de genre, quelqu'un qui va être plutôt orienté musique, un autre plutôt littérature, d'autres do it yourself, écologie. Enfin, il y a vraiment tout. Moi, j'ai plutôt le rôle un peu généraliste culture pop, donc c'est pour ça aussi que je suis souvent proche de Pixel, les jeux vidéo, la culture, je dirais plutôt un peu série, etc., qu'on appelle geek dans la culture, dans le quotidien, mais qui est un peu pour moi caricatural l'étiquette geek maintenant, mais voilà, qui est plus pour moi c'est plus la curiosité en sens général. Voilà.
Le meilleur moment vécu avec l'Anthropode,
il y en a eu tellement. J'ai envie de dire peut-être le dernier, finalement, la dernière émission, mais c'est un peu faire injure aux autres, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que la dernière, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, encore une fois. On a reçu un couturier styliste, donc un univers qu'on connaissait pas du tout, et on a découvert, encore une fois, quelque chose qu'on... le parcours, on aime bien échanger sur le parcours des gens, comment ils en sont arrivés à faire ça, quels ont été les déclics. Et puis, on s'est lancé donc dans ce type d'intervention avec des gens. Donc il y a eu ici, avant on avait eu quelqu'un qui travaille dans une maison de production empreinte digitale, qui produit des séries, et puis on a reçu vraiment beaucoup de choses, on a participé à des festivals, que ce soit le Hellfest, que ce soit des festivals ici du coin, mais à chaque fois qu'on est bien reçu, on vient en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe.
Bon, alors donc vous serez dimanche en direct sur la web radio du 106, donc à partir de 16h,
voilà.
Pour 1h30 de podcast, voilà. Que vous fournirez donc ensuite en téléchargement. On retrouve où le podcast?
Alors le podcast, vous allez sur votre application de podcast préférée, qui est la plus connue en général, c'est Apple Podcast, pour tous ceux qui ont le matériel Apple. Mais sinon, il y a d'autres services qui existent. Vous cherchez un annuaire de podcast sur Internet, vous le trouvez. Sinon, vous allez sur le site de l'Anthropode, anthropode.fr, c'est tout bête. Et puis là, on retrouve nos émissions, mais aussi des articles, parce qu'on des fois, quand on n'a pas le temps d'aborder certains sujets au cours de l'émission, on vient faire un petit article de blog, on met des compléments, des petites choses comme ça. Et puis sur les réseaux sociaux, sinon vous tapez Anthropode, et vous nous trouverez, on est à peu près partout, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.
Et donc l'Anthropode est dans Radio Lomax. Radio Lomax ira dans l'émission de Pixel ce soir.
Exactement.
Entre 19h et 20h, et puis Pixel ira dans l'Anthropode demain, voilà, à 16h. Et là donc aujourd'hui vous êtes dans Radio Lomax pour une petite chronique, c'est la présentation d'un podcast, une sorte de mise en abîme en quelque sorte.
C'est un peu ça, et je vois que c'est un peu, je l'ai choisi hier, hein, ce sujet, et puis je vois que ça fait écho à pas mal de choses qu'on a déjà dites et qu'on va certainement redire tout au long du week-end, je pense, d'après ce que j'ai pu suivre. Donc c'est un podcast qui s'appelle Pod Monstre Trésor. Alors ça fait écho à ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps, puisque c'est en lien avec ce qui a été dit. Ça parle des livres dont vous êtes le héros.
Ah ouais.
Donc on se rapproche un petit peu du jeu de rôle, un petit peu de ce type de sujet à différentes opportunités, des portes, lesquelles ouvrir, lesquelles ne pas ouvrir, quelles vont être les conséquences sur l'histoire, est-ce que l'histoire va être plus ou moins longue. Et donc moi c'est des sujets que j'aime bien présenter parce que le podcast c'est pas encore quelque chose qui est très très connu encore dans le grand public, ça se démocratise de plus en plus, mais souvent ça reste quand même des choses assez... qui ont pignon sur rue, la radio de la Catch-up Radio ou les grands labels. Et là, c'est un plus petit label qui s'appelle Audioactif, qui a plusieurs podcasts à son catalogue, pardon. Ouais. Et donc, Pot Monstre Trésor, c'est le podcast dont vous êtes l'auditeur et où les animateurs sont les héros. Donc, tous les mois, c'est Gawen, Fonz et Winston, donc des pseudos, bien sûr, qui vont jouer des coudes pour ne pas mourir au détour d'une page. Une heure, un héros et trois joueurs. Alors donc Fonz et Winston, ils animent aussi un autre podcast du même label qui s'appelle Backlog, qui est un podcast de jeux vidéo. Donc ça rejoint ce que nous disait un petit peu tout à l'heure Violaine, des sujets un petit de la pop culture, voilà, de ce type-là. Et donc c'est ce que j'aime bien dans ce podcast-là, c'est que contrairement à d'autres podcasts qui parlent toujours de l'actualité, faut être toujours un peu premier sur l'info, eux non, ils parlent des jeux auxquels ils jouent. Et donc des jeux qui ont au moins 3 ans. Mmh. Donc c'est des jeux, finalement, la hype, on peut dire, peut être passée. Et puis, ils regardent avec du recul, avec moins l'aspect technique, ou je dirais marketing,
ça vient de sortir,
qui va
quoi.
Avec. Quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Il faut absolument en parler si on veut faire du clic, etc. Mmh. Donc j'aime bien ce côté, on prend notre temps et puis on le fait avec du recul. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est dans cet esprit-là, donc, Pod Monstre Trésor, c'est un clin d'œil au type Porte Monstre Trésor, qui est une manière de jouer aux jeux de rôle médiévaux fantastiques, en fait. C'est-à-dire que l'action se résume schématiquement, c'est vraiment schématiquement, à ouvrir une porte,
ouais,
combattre un monstre, et derrière ce monstre, il se trouve un trésor. Et au fur et à mesure qu'on ouvre des portes, qu'on combat des monstres et qu'on a des trésors, le joueur gagne en expérience, gagne en compétences, récupère des objets, etc., qui le font avancer dans l'histoire,
qui
etc.
Qui lui permet d'affronter d'autres monstres plus puissants, etc.
Exactement, pour arriver au... et ainsi de suite. Donc le jeu de mots avec pod au lieu de porte, voilà, c'est histoire de montrer qu'on reste quand même dans cet esprit-là. Donc on est dans le style, le livre dont vous êtes le héros, et ce qui marche vraiment très très bien, c'est les interactions entre les trois. C'est ça qui est intéressant.
Entre les trois animateurs.
Les trois animateurs, pardon, parce que Il y a vraiment ce côté bande de potes. On a l'impression que c'est des potes à nous, en fait. Quand on les écoute, on a envie d'être à leur table et puis se marrer.
Ils jouent, en fait.
Ils prennent un livre, ils expliquent le contexte du livre. Ils se donnent une heure pour avancer dans leur aventure et ils construisent leur personnage. Alors voilà, on va lui mettre, hop, on lance les dés. Il a 7 en expérience, en point de vie, en machin, etc. Hop. Et puis bah, là, c'est parti, on lance. Ou on lance chacun notre tour, ou quand il faut faire un 3D, bah, on lance chacun un dé et puis on voit les choses. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'il y a de l'humour, il y a du décalage, ils sont tous autour de la table comme nous là ici, et puis du coup ça permet d'avoir dans les regards, dans les blagues, dans des trucs, de temps en temps on sent qu'il y a cette complicité qui fonctionne très très bien, des réponses au tac, et donc l'auditeur écoute les animateurs vivre l'aventure au gré des lancements de dés pendant une heure, donc c'est pas très très long en plus, c'est ça qui est assez sympa. Et ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est le travail de post-production et de montage qui existe, parce qu'effectivement pour avoir des épisodes d'une heure à chaque fois, ils doivent certainement de temps
remonter
en temps avoir des petits fous rires et puis des petites choses,
des moments où il se passe pas grand chose,
et c'est surtout le travail d'habillage qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a un habillage sonore de la musique, des bruits de grincement de porte, des choses comme ça, ce qui fait que ça joue encore plus dans l'immersion pour l'auditeur qui se retrouve. Enfin, moi, je l'écoute et puis je me fais des images visuelles en l'écoutant, puis je vois un peu ce qui se passe alors que j'ai rien du tout sous les yeux. C'est juste mon imagination qui travaille. Donc, faut vraiment féliciter par rapport à ça. Et surtout, contrairement à ce que disait tout à l'heure mon voisin, et puis.
Benjamin,
voilà, j'ai du mal à prononcer, je voulais pas dire bêtise, voilà. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui vient du jeu de rôle. Jeu de rôle et puis même livre dont vous êtes le héros, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré quand j'étais gamin. C'est des trucs, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Mmh. Mais par contre, j'ai jamais eu le courage de me lancer dedans. J'avais un peu une réticence à comprendre les mécaniques, à comprendre à comment fonctionne le personnage. C'est, pour moi, un livre, ça s'ouvre et puis c'est tout. Là, c'est un livre, il faut avoir une feuille à côté, des dés, des machins, et ça me paraissait trop compliqué.
Ouais.
Et là, ça me faisait un travail d'apprivoisement, qui était un peu compliqué et puis très, très chronophage. Là, je suis spectateur. Et c'est eux qui font le travail que je trouvais moi fastidieux.
Ouais.
Et donc j'ai juste à suivre cette aventure de façon prendre que le côté plaisant du truc et pas le côté qui me rebutait. Donc là je joue par procuration.
Mais ça t'a pas donné envie de jouer vraiment finalement du coup ?
Ça me donne un petit peu envie d'aller creuser les choses, mais je me dis que c'est trop chronophage en fait. Voilà, je préfère finalement, là je prends une heure, j'écoute un podcast, j'ai l'expérience sans avoir à m'investir, à me dire est-ce que j'ai bien compris les choses, etc. Voilà, donc
on rappelle le nom de ce podcast.
Ça s'appelle Pod Monstre Trésor. Et puis juste avant de terminer, c'est plutôt des thèmes heroic fantasy. Mais ils touchent à tout. Et notamment, ils ont pris, lors d'un épisode hors série, ils ont pris un livre dont vous êtes le héros avec un scénario qui était censé être érotique. Mais visiblement, pour l'avoir écouté, ça ressemblait plus à du SAS Gérard de Villiers. Mais du coup, ça crée encore plus ce côté complicité, connivence, humour, décalage, en prenant du recul sur l'histoire, etc. Et donc, ça se prête à beaucoup d'expériences. Voilà ce que je voulais vous dire sur Pod Monstre Trésor.
Merci Nico de l'Anthropode, qu'on retrouvera donc sur la web radio du 106 et puis ensuite sur les plateformes où on peut retrouver des podcasts. Mais en direct donc demain à 16h ici même au 106. Prochain rendez-vous sur la web radio du 106 à 19h pour l'émission Pixel, avec dedans des chroniques qui vont vous emmener dans des univers à multiples choix, des cerveaux un peu malades et le futur de l'humanité, et puis aussi des propos intelligents avec l'interview de Juan Enigma pour parler de la popularisation des escape games. Le festival Setup est en cours au 106 et venez nous rencontrer et venez ici au Setup Festival au 106. Il s'y passe plein de choses. Merci Nico, à très bientôt.
Merci à toi.
Au revoir. Allez.